L'autre question que vous avez demandé, c'est la question de participation des pays en développement. Alors ici, à Caltech, comme en France, je me rappelle, il y a un grand nombre d'étudiants qui viennent ici de pays d'Afrique ou d'Asie. Et après, une fois qu'ils ont le doctorat, ils vont de retour dans leur pays, mais on continue la collaboration avec eux. Alors, ça fait aussi, et particulièrement dans les domaines spatiaux, d'habitude, les jeunes sont très intéressés dans
C'est tous nos
l'exploration
projets, on
spatiale.
a une collaboration avec l'Europe dans tous les projets du passé, aussi bien que des projets du futur. Spécifiquement, avec le CNES, on a toute une série de satellites terrestres pour étudier les océans. Ça fait maintenant une quinzaine d'années ou peut-être 20 ans qu'on avait, tous les 4 ou 5 ans, on avait un satellite pour étudier les océans, la circulation des océans, la température, parce qu'il y a toujours le problème de global change et le changement de température dans notre planète. Et l'océan est une partie importante d'étudier ce qui se passe sur notre planète. Je m'appelle Charles Elachi. Je suis un professeur à Caltech aux États-Unis. Et depuis, dans la période 201 à 216, j'étais le directeur du JPL, le Jet Propulsion Laboratory. Alors, quel a été votre parcours d'étudiant?
Ouais, je suis d'origine libanaise. J'ai fait mes études au Liban jusqu'au baccalauréat. Puis après ça, je suis parti en France. J'étais à l'Institut Polytechnique de Grenoble pour faire mon diplôme d'ingénieur. J'ai passé 4 ans. C'était depuis 1964 à 68. C'était le temps où les Jeux olympiques d'hiver étaient à Grenoble. Vous vous rappelez de Jean-Jacques, de skieur français. Puis après, je suis venu aux États-Unis pour faire mon doctorat. Je suis venu à la California Institute of Technology, où j'ai fait mon doctorat ici en Californie.
Alors, quel a été le sujet de votre thèse en fait?
J'ai fait mes études en ce qu'on appelle physique appliquée ici. Alors spécifiquement, j'ai fait mon doctorat sur la propagation des ondes électromagnétiques dans des milieux périodiques. C'était une thèse complètement théorique que j'ai fait ici avant de commencer à travailler au JPL.
Alors, aujourd'hui, l'ensemble de vos travaux de recherche sont-ils visibles, présents sur différents projets spatiaux que nous utilisons aujourd'hui ou que nous avons utilisés il y a quelques années?
Oui, j'ai fait, quand j'ai commencé au JPL après mon doctorat, j'ai devenu un professeur à Caltech et aussi je travaillais comme chercheur au JPL. Et la plupart de mes recherches personnelles, c'était pour utiliser les instruments de satellites, particulièrement des radars, pour faire du mapping de la géologie terrestre aussi bien que planétaire. Alors, la plupart de mes travaux, c'était d'étudier les planètes. Particulièrement la géologie des planètes, Vénus, la Terre, Mars, l'Europe, et pour faire des extractions d'informations scientifiques et de construire des instruments avancés, ou bien radar, ou bien infrarouge ou visible. La plupart des missions que j'ai faites du point de vue recherche, c'était dans ce domaine. Mais quand j'étais le directeur du JPL, on avait toute une série de missions qui étaient de toute une variété d'études planétaires.
C'est très riche au niveau du JPL parce que, en fait, vous êtes au cœur de tous les plus gros projets aérospatiaux dans le système solaire et en comprenant, comme vous l'avez si bien dit, la dynamique, enfin, la géologie, la Terre elle-même, quoi, en fait. Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur cette carrière, d'excellence?
Ouais, La plupart de mes professeurs à Grenoble, au Liban, puis après à Grenoble, puis après ici, je les trouvais tous très intéressants. Alors, c'était ils ont fait la science quelque chose de très intéressant de faire ça. Alors, je me rappelle très bien à Grenoble, un de mes professeurs était Louis Neel, qui a reçu le prix Nobel durant la période où j'étais à Grenoble. Alors, lui, il était comme mon advisor. Il a fait la physique de quelque chose de très intéressant pour moi. Et il a parlé un peu des explorations planétaires. Alors, c'était lui qui m'a donné comme avis de venir à Caltech après mon doctorat. Car je lui ai dit qu'est-ce que j'étais intéressé dans des études spatiales, exploration spatiale. Alors, il m'a dit, une grande université sera le California Institute of Technology, au Caltech, ici, et parce qu'il y a une association entre l'université et le centre spatial de la NASA, qui est le Jet Propulsion Lab. Il y a seulement une distance de 5 km entre les deux. Et l'université elle-même fait l'administration du centre spatial. Alors, ça, c'était l'une des raisons que je suis spécifiquement venu à Caltech.
Pouvez-vous nous faire part de quelques missions phares durant la période où vous avez été directeur du JPL de 2001 à 2016, 3 à 4 missions qui vous ont marqué et qui ont été incontestablement remarquées sur la scène internationale?
Voilà, durant cette période, on a lancé presque 25 missions planétaires et terrestres durant la période où j'étais un directeur. Toutes les missions étaient c'était vraiment exciting. Mais les missions qui étaient le plus dramatiques, c'était les missions d'atterrissage sur Mars. C'était Spirit and Opportunity et puis après Curiosity. Parce que on travaille pour une période d'une dizaine d'années sur ces missions, puis tout dépend des 5 minutes quand on entre dans l'atmosphère de Mars. Et tout doit, et comme la distance, ça prend presque une dizaine de minutes pour la communication entre la Terre et Mars, on ne peut pas faire une réaction d'une manière réelle. Alors tout était programmé d'avance. Alors ici, on est dans la mission de contrôle et on voit ce qui se passe, mais on n'a pas de contrôle parce que tout était programmé d'avance pour faire ça. Alors ça, c'était je veux dire, les missions les plus dramatiques du point de vue dramatique. Et en même temps, tout le monde est en train de voir en même temps que nous ce qui se passe durant cette entrée. Alors ça ajoute un peu pour le drama de ce qui se passe. Puis en plus, c'était des missions qui ont une valeur très scientifique. Et dans toutes ces missions, il y avait des participations du CNES, de la France. On avait des instruments français qui étaient sur ces missions. Une autre mission qui était très, très importante, c'est qu'on a ajouté un hélicoptère sur l'une de ces des missions sur l'atterrissage de Mars. Et c'était la première fois qu'il y a un hélicoptère dans une planète autre que la Terre. Alors ça a ouvert tout un nouveau domaine d'exploration en utilisant des avions au lieu que d'utiliser seulement des rovers sur la surface. Alors ça, c'était aussi, on n'était pas sûr que ça va marcher bien. Alors c'était vraiment ce qu'on dit, on prend un risque pour démontrer la technologie et avancer notre capacité. L'autre mission qui était très importante, c'est Cassini. Alors, c'était une mission vers Saturne qui était faite ensemble avec the European Space Agency. Je vois le lanceur Ariane derrière vous. Et avec ESA aussi bien que le centre spatial en Italie. Et c'était pour explorer la planète Saturne et tous les satellites autour de la planète, particulièrement l'exploration de Titan, parce que c'était un satellite qui est plus grand que notre Lune, qui est vraiment couvert de nuages. Et on a mis un radar que j'étais le principal investigator sur ce radar, où on a vu que sur Titan, il y a des lacs, il y a des rivières, exactement comme on a ici sur la Terre, sauf que ces lacs et ces rivières sont faits du méthane. C'est de la. Parce que la température est vraiment froide, alors l'eau est solide, alors tous les rocs, les rochers sont de l'eau, mais les liquides sont faits de méthane et d'éthane et des matières organiques. Alors ça, c'était un exemple d'un satellite qui est très similaire à la Terre, mais la chimie est complètement différente, ce qu'il y a
C'est
là-bas.
sur ce plan de réflexion-là que on s'interroge plus ou moins sur pourquoi sur Titan l'apparition de la vie n'a-t-elle pas eu lieu en fait, d'une certaine manière.
Ça c'est une très bonne question. Alors, c'est là l'un des objets des missions du futur. C'est de chercher d'atterrisser et d'avoir un avion comme ce qu'on a fait sur Mars et d'explorer toute la région de Titan, particulièrement pour voir s'il y a des possibilités de la vie. Parce que l'un des objectifs principaux de notre exploration spatiale, de voir s'il y a de la vie sur d'autres autres planètes que la nôtre. Alors c'est pour ça qu'il y a intérêt sur Mars, parce qu'on pense peut-être qu'il y avait de la vie dans le passé, quand il y avait de l'eau sur la surface de Mars. L'intérêt dans Europa et Enceladus, et satellites de Jupiter, Enceladus, satellites de Saturne, où on pense qu'il y a un océan au-dessous de la surface. Alors la question, est-ce que c'est possible qu'il y ait de la vie dans cet océan? Et comme vous avez dit, sur Titan, parce qu'il y a de la matière organique sur la surface de Titan, et on se demande, est-ce qu'il y a possibilité de la vie sur Titan?
Oh, c'est la particularité entre les deux domaines scientifiques, la biologie, le vivant et l'astronomie, avec la plupart du temps où le scientifique sur Terre peut prendre une cellule dans son laboratoire et l'analyser, alors que là, comme vous le soulignez si bien, c'est qu'on est dans des grands défis et qu'on essaye de faire cet exploit, d'observer, de regarder. Voire d'expérimenter, mais sur le lieu, en se déplaçant à des distances extrêmes, en fait, d'aller sur un satellite pour observer, récolter des données et éventuellement créer des champs de réflexion extraordinairement riches et intéressantes.
Ah oui, exactement. Dans toutes ces missions, par exemple sur le rover sur Mars, en effet, on a un laboratoire chimique. On a tous les instruments qu'on trouve dans un laboratoire ici sur la Terre, dans une université ou dans une compagnie, et on fait de miniaturisation des instruments et on a sur le rover. Alors, c'est plus ou moins comme c'est une extension de nous, des savants ici, d'envoyer nos laboratoires sur une autre planète et de faire les analyses des rochers ou de l'atmosphère ou des choses comme ça pour des études biologiques ou d'études géologiques aussi.
Aujourd'hui, quels sont les défis à court et moyen terme au sein du GPL en tenant compte notamment des différents partenariats avec les différents pays européens comme la France? Et plus largement, au-delà du contexte européen, dans le concert international qui bouge beaucoup aujourd'hui dans le domaine du spatial.
Dans presque tous nos projets, on a une collaboration avec l'Europe, dans tous les projets du passé, aussi bien que des projets du futur. Spécifiquement, avec le CNES, on a toute une série de satellites terrestres pour étudier les océans. Ça fait maintenant une quinzaine d'années, ou peut-être 20 ans, qu'on avait, tous les 4 ou 5 ans, on avait un satellite pour étudier les océans, la circulation des océans, la température, parce qu'il y a toujours le problème de global change et le changement de température dans notre planète. Et l'océan est une partie importante d'étudier ce qui se passe sur notre planète. Alors, on a toute une série de missions avec la France. Et c'était une collaboration extrêmement productive.
Ça, dans les études terrestres. Dans les études planétaires, la mission qu'on est en train de... on va lancer dans quelques mois, c'est une mission qui s'appelle Clipper. C'est une mission d'être en orbite autour de Jupiter et d'étudier le satellite Europa et Ganymède. Et en même temps, l'Europe a lancé déjà un satellite dans la même direction pour être en orbite autour de Jupiter et d'étudier les autres satellites, Ganymède et Callisto, les autres satellites de Jupiter. Et on fait une collaboration entre les deux. De cette manière, il y a des scientifiques américains qui participent dans les missions européennes et vice-versa, des scientifiques européens qui sont sur notre mission. Et de cette manière, on utilise deux satellites pour étudier le système de Jupiter.
Dans son ensemble.
Puis dans le futur, on est en train d'étudier maintenant une mission pour chercher des échantillons de Mars. Alors, ce sera peut-être en 2030, 2032 qu'on fera ça. Et ça, c'est une collaboration très intime entre nous et l'Europe. Une partie de la mission sera faite par le CNES et une partie sera faite ici aux États-Unis. Alors, de cette manière, ça donne comme exemple que dans les recherches scientifiques, planétaires en particulier, il y a une collaboration très intime entre particulièrement l'Europe et les États-Unis. Et quand je dis l'Europe, c'est ou bien ISA ou bien les centres nationaux comme le CNES ou le ASI ou bien le DLR en Allemagne. Alors, c'est comme ça qu'on fait nos explorations. C'est vraiment une exploration pour l'humanité. Pas pour les États-Unis ou la France, mais c'est pour tout le monde.
C'est une véritable collaboration avec une richesse scientifique derrière très présente. Vous avez été enseignant durant de nombreuses années au sein du prestigieux Institut de technologie de Californie, le Caltech, où vous avez enseigné la physique de la détection spatiale. Institut qui est composé de nombreux physiciens, théoriciens hors pair, même d'autres scientifiques comme des astrophysiciens ou d'autres personnalités du monde scientifique. Pouvez-vous nous faire part des grandes spécificités?
Caltech, c'est une université privée, pas supportée par le gouvernement. Et c'était une université qui est assez petite, et petite université. On a presque 2000 étudiants, 1000 qui font ingénieurs ou bien biologistes pour baccalauréat, bachelor, ce qu'on appelle ici, et presque 1000 étudiants qui font de doctorat. Et on a presque 300 professeurs. Alors, c'est une université assez intime. Mais c'était une université aussi très fameuse parce que de Caltech, durant toute la période de Caltech dans les 100 années dernières, il y avait, je crois, presque 45 prix Nobel qui étaient ou bien étudiants, ou bien professeurs, ou bien alumni de Caltech. Et on fait spécifiquement la concentration dans les disciplines scientifiques, ou bien la biologie, l'astronomie, génie d'ingénieur, et dans les domaines spatiaux, parce qu'il y a une collaboration très intime avec le JPL, le Jet Propulsion Lab, qui était fondé par Caltech. Avant d'être un centre de la NASA, était un centre de Caltech. Alors, il y a pas mal d'interactions entre le JPL et Caltech. Pour vous donner une idée, au JPL, il y a presque 7 000 ingénieurs et scientifiques. Alors, c'est un grand laboratoire et il y a une collaboration. Il y a des étudiants ici qui travaillent un jour par semaine au JPL. Il y a des chercheurs au JPL qui donnent des cours ici à Caltech. Par exemple, moi-même, quand j'étais étudiant ici, je travaillais durant l'été, je travaillais au JPL avant que je reçue mon doctorat. Alors, c'est une relation très, très intime. Et aussi bien Caltech est bien connu dans le domaine de physique, physique, chimie et biologie. Alors, pas très longtemps C'était le centre qui a développé ce qu'on appelle LIGO. Alors ça, c'est l'instrument qui a fait une détection des ondes gravitationnelles.
Oui.
Et le chercheur comme Kip Thorne, qui était le principal chercheur dans ce domaine, il a reçu le prix Nobel il y a 4 ou 5 ans. Alors ça, c'est un exemple des
Parmi
choses
d'autres.
qu'on fait à Caltech. Et ce qui est très important pour nous, c'est que d'être sûr que les étudiants, dès le début de leur étude universitaire, ils participaient dans la recherche. Alors, c'est ce qu'on appelle, on est a research university, c'est-à-dire une université qui fait particulièrement de la recherche dans notre éducation.
Alors, nous avons de nombreuses réflexions au sein de la société, c'est-à-dire que beaucoup soulignent la complexité de faire apparaître, émerger de grands scientifiques d'envergure, comme de véritables physiciens théoriciens, des philosophes, des grands mathématiciens, des hommes ou des femmes hein, d'ailleurs. Et s'ils sont présents au sein de notre société, ils sont majoritairement méconnus, étrangers entre guillemets, de leur société, de notre société. Du fait que les canaux de communication sont souvent très élitistes, c'est-à-dire que cela demande un certain effort de réflexion, de conscience, des connaissances, des modèles théoriques, etc., pour pouvoir engager des discussions en profondeur et des échanges très, très riches humainement, humainement. Alors, qu'il s'agit l'une des choses incontestablement les plus précieuses au sein d'une société, car leur présence, elle atteste incontestablement la vitalité d'une société. Certains vont même dire que nos sociétés ne permettent, hélas, plus difficilement l'apparition de véritables théoriciens, comme dans la lignée de les grands noms connus, c'est dans la lignée d'Albert Einstein, dans la lignée d'Henri Poincaré pour la France, de Mohamed Abdou Salam, de Peter Higgs. Je rappelle pour ceux qui vont nous écouter par la suite, Abdou Salam, il a eu une particularité au-delà du fait de ses travaux dans le domaine de la physique théorique. Il a fondé en 1983 l'Académie des sciences du tiers-monde, qui est située en Italie et toujours vivante, dont l'objectif principal était de promouvoir le travail scientifique dans les pays en développement. Alors, dans tout ce contexte-là, ces interrogations, ces inquiétudes, mais aussi ces joies quand on rencontre ces scientifiques d'envergure, on dialogue, on discute, parce que ça nous donne aussi envie de nous investir au sein de la société d'une manière constructive et surtout en profondeur. Qu'en pensez-vous? Quels sont les conseils, les réflexions que vous pouvez nous partager sur ces sujets? Car l'idée centrale, c'est comment participer à la présence de véritables élites tout en restant connectés, puisqu'aujourd'hui le mot c'est toujours rester connecté, mais au-delà de la virtualité.
Oui, alors c'est vrai. Alors, on fait, chez nous ici, on fait un grand effort pour communiquer avec le public en général du rôle du domaine scientifique dans la vie de tous les gens. Alors, j'ai toujours, quand on a par exemple une série ici à Caltech, on a une série d'événements publics où on invite le public dans la région. Chez nous ici, et on explique, on donne des conférences scientifiques, mais faites d'une manière que le public apprécie l'importance de la science. Et on donne des exemples avec ça. Moi, personnellement, presque chaque semaine, je donne une lecture, ou bien dans les écoles, ou bien dans des domaines publics, sur le rôle de la science et l'espace. Comment ça va changer notre vie. Et par exemple, un exemple que toujours j'aime bien donner, que tout le monde a un iPhone, comme ça, et dans tous les iPhones, il y a une caméra. Alors, j'explique aux gens que le focal plane de ces caméras a été développé il y a 20 ans au JPL pour des instruments astronomiques. On avait besoin d'avoir une caméra qui est très, très petite. Est très légère. Alors, on a fait des recherches et on a développé ça. Puis, un entrepreneur a dit, ah, je peux utiliser ça dans les iPhones. Et ça fait toute une économie de ça. Alors ça, c'est un exemple que je donne au public, la contribution des scientifiques et des ingénieurs a fait un grand changement dans notre vie. Je donne un autre exemple, c'est le voyage par avion. Il y a 100 ans, c'était une curiosité, mais tous les développements technologiques qui ont été faits dans les structures des avions, les engins des avions et tout ça. Et là, maintenant, tous les gens voyagent dans les avions d'une manière commune. Alors, ça c'est important en communication avec le public de leur donner des exemples qui est partie de leur vie, comment la science et ce que les scientifiques ont fait a changé leur vie. Par autre exemple, que j'ai parlé de Kip Thorne avant, alors Kip Thorne, il participe à faire des films avec Hollywood. Et alors, ça donne un autre exemple comment les scientifiques participent dans l'entertainment. Les gens ont fait ça. Alors, c'est important de démontrer au public l'importance de la science, pas seulement du point de vue théorique, ce qu'on fait dans les universités, mais comment ça fait une implication pour notre vie régulière. L'autre question que vous avez demandé, c'est la question de participation des pays en développement. Alors ici, à Caltech, comme en France, je me rappelle, il y a un grand nombre d'étudiants qui viennent ici de pays d'Afrique ou d'Asie, et après, une fois qu'ils ont le doctorat, ils vont de retour dans leur pays, mais on continue la collaboration avec eux. Alors, ça fait aussi, et particulièrement dans les domaines spatiaux, d'habitude, les jeunes sont très intéressés dans l'exploration spatiale parce que c'est quelque chose, ils voient les étoiles durant la nuit, penser qu'on envoie des satellites à ces étoiles ou on fait des photos avec des télescopes de ces étoiles. Alors, c'est très inspirational pour les jeunes gens de participer dans l'exploration scientifique. Alors, vous avez un bon point que le public n'a pas d'appréciation, mais il faut toujours continuer nos efforts de communiquer avec le public sur ces choses. Un autre exemple, c'est des gens, par exemple, quand Jean-Jacques Cousteau et sa compagnie, quand ils ont fait les explorations des océans. Alors, ça aussi montre au public en général le rôle de la science, d'étudier, d'explorer notre planète.
Pour rebondir au niveau des avions, à l'époque, on était, avant que le GPS apparaisse, on faisait de la navigation aux étoiles. On se repérait avec les étoiles et il y avait un technicien dans le cockpit qui s'occupait spécifiquement du repérage des étoiles. Après, quand est venue la révolution du spatial, effectivement, il y a toute la dynamique du GPS, du positionnement, qui a chamboulé tout positivement, effectivement, quoi, dans ce cadre-là.
Ouais, vous avez donné un autre exemple que toujours quand je donne des présentations au public et je parle de la technologie spatiale, comment on l'utilise, alors toujours je demande combien de vous, de l'audience, combien de vous ont utilisé l'espace dans les 24 heures, dans les dernières 24 heures? D'habitude, il y a quelques gens on a fait ça. Puis je leur rappelle quand ils sont venus dans leur voiture, et ils ont le Google et le Google Maps et tout ça pour leur location. Ils ont utilisé l'espace parce que c'était le GPS qui les a aidés de placer comment aller de point A à point B. Alors toujours le public sont un peu surpris parce qu'ils ne pensent pas que c'est des satellites qui les ont aidés de faire leur voyage. Alors donner des exemples comme ça toujours démontre la valeur de la recherche spatiale et des systèmes spatiaux pour les choses qu'on fait tous les jours.
Certains de vos employés ont mentionné votre leadership visionnaire qui a énormément aidé le JPL à réaliser certaines missions les plus passionnantes et innovantes. Quel conseil pourriez-vous donner à la nouvelle génération de leaders pour avoir autant d'impact que vous l'avez été?
Je veux dire la même chose que je dis à mes étudiants ici à Caltech. Là, il y a deux choses qui sont très importantes, trois choses qui sont très importantes. La première chose, tout est possible. Si vraiment vous voulez faire quelque chose et si vous travaillez à faire ça, tout est possible. La deuxième chose, il faut avoir de la passion pour ce que vous faites. Parce que quand vous allez passer la plupart de votre vie travailler, par exemple, soit en musique ou en artiste ou bien scientifique ou bien ingénieur, dans n'importe quelle discipline, il faut avoir de la passion de ce que vous faites. Si vous n'avez pas de la passion, vous êtes dans un domaine, vous devez changer et faire quelque chose d'autre. Et la troisième chose, c'est que il ne faut pas hésiter de prendre un peu de risque. Parce que si vous allez faire des nouvelles découvertes, si vous allez faire quelque chose de nouveau, la plupart du temps, on n'est pas sûr que ça va marcher. Alors, c'est pas. Par exemple, dans nos missions planétaires, on prend du risque tout le temps. Mais on pense sur ce risque. Ce n'est pas un risque n'importe quoi. Mais toujours, on n'est pas 100% sûr que les choses vont marcher, comme on le dit. Alors, ça, c'est les trois choses que je recommande aux jeunes étudiants ici à Caltech, et c'est de tout est possible. Il faut avoir de la passion de ce que vous faites et il faut prendre un peu de risque dans votre travail. Et si les choses ne marchent pas, ça ne fait rien. You learn. Ça vous donne une expérience de faire ça. Au JPL, il y a pas mal de fois qu'on n'a pas réussi. On a fait quelques missions qui sur Mars qui n'ont pas réussi, mais on a appris de ces missions comment on va faire quelque chose de meilleur après ça.
Chaque erreur est une leçon.
Oui.
Alors, pour les dernières questions, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial en particulier?
Ah, je le recommande, c'est dans le domaine spatial, on a besoin de gens de toutes les disciplines, des chimistes, material science, des gens de physique, n'importe quel domaine, même des artistes. Au JPL, on a une douzaine d'artistes que ce qu'ils font, c'est de faire des displays pour expliquer au public général ce qu'on est en train de faire. Alors, si vous êtes intéressé dans des études spatiales, qui est vraiment très intéressant,
Passionnant.
c'est un grand plaisir pour moi de travailler dans le domaine spatial. Dans n'importe quelle discipline, il y a la possibilité dans le futur de participer. Par exemple, en France, il y a le CNES, il y a toute une série de compagnies qui travaillent dans le domaine spatial, des universités aussi, il y a le ESA. Et quand vous êtes parti de l'European Union, il y a la plupart des grands pays dans l'Union européenne ont des centres spatiaux ou bien des fonds, des compagnies qui travaillent dans le domaine spatial. Alors, ce que je leur dis, que c'est vraiment un domaine très exciting. Mais ce n'est pas le seul domaine. Il faut que je vous dise, j'ai deux filles et ils ne sont pas des chercheurs scientifiques. Ils ont fait l'un est un architecte et l'autre travaille dans la politique, mais ils ont de la passion pour leur domaine. Et ça, c'est la chose la plus importante.
Essentiel. Alors pour finir, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi justement?
Ah, oui, ils sont très importants, les associés scientifiques et techniques, parce qu'ils font deux choses. Une chose, ils cherchent les chercheurs de plusieurs pays, pas seulement de l'association. La plupart des associations sont internationales. Alors, il permet de faire des communications entre les différents chercheurs, différents pays. Et c'est très important, particulièrement durant ces temps-là où il y a pas mal de tensions entre les pays et tout ça. Alors, avoir des scientifiques qui travaillent ensemble, at least c'est un moyen de communication. Par exemple, je me rappelle, même durant le Soviet Union, the Cold War, il y avait pas mal de communication entre les chercheurs spatiaux au JPL et en Russie, ou bien dans Soviet Union. Et ça permet d'avoir des communications avec des gens parce que, enfin, on est tous comme, c'est les mêmes, on est la même chose. C'est des gens qui ont le même désir que ce qu'on avait ici. Alors, ces associations sont très importantes. L'autre chose, c'est que aussi, il permet de faire plus de communication avec le public, qui est une autre chose qui est importante. Il y a pas mal d'associations où leur objectif, c'est d'éduquer le public sur les recherches scientifiques. Alors, c'est un rôle très important dans notre société.